Salut les joueurs et salut les joueuses. Nous sommes le 28 mai 2015 et vous écoutez le 67e épisode de Proxy Jeux. Je suis Olivier et je suis accompagné de Jérémy.
Bonsoir.
De Geoffroy.
Bonsoir.
De Ève.
Bonsoir.
De Franck.
Pardon, bonsoir.
Et dans ce troisième épisode, nous allons parler de jeux de rôle et de do it yourself. Alors, on a l'avant-dernière chronique des d'ailleurs pour cette année. Ils m'ont dit qu'ils pourraient enregistrer un petit bilan de cette année ou des deux années qu'ils ont passées ensemble. Alors, j'ai réalisé dernièrement qu'ils avaient passé deux années ensemble. Moi, je trouve ça beau. Et puis deux années pendant lesquelles ils nous ont abreuvé d'histoires sur la colle, sur la découpe laser,
le scalpel.
Qui n'a pas de scalpel après avoir écouté le Lord et son gros marteau. Bref, aujourd'hui, point de technique, mais plutôt du jeu. On vous laisse pendant 30-35 minutes avec Guilin, donc Courju et Alexis, Ultra Lord 77. Ils vont vous parler des jeux à faire en do it yourself.
Bonjour les makers et bonjour les makeuses et bonjour Guilin.
Salut Alexis, salut à tous.
Et donc pour cet épisode, pas d'invité, et puis pour changer un petit peu, on va chroniquer des jeux, donc trois jeux, et donc je vais me tenter à cet exercice périlleux, mais pour me mettre en jambe, on va commencer avec Guilin qui va nous présenter Best Treehouse Ever.
Ouais. Donc Best Treehouse Ever, c'est un jeu de Scott Helms, illustré par Adam McIver. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, ça dure à peu près une demi-heure, et preuve à l'appui, c'est jouable à partir de 6 ans, puisque j'y ai joué avec mon gamin. Donc c'est un jeu sur une thématique assez originale, puisque le but est de construire la cabane la plus géniale. On a un arbre au départ, et puis on va rajouter des pièces sur cet arbre. Et donc le but, c'est de faire l'arbre le plus génial, évidemment selon certaines règles de décompte de points. C'est un jeu de draft, tout ce qu'il y a de plus classique. On a un certain nombre de cartes en main, on en choisit une, on passe à son voisin. Ça se fait ça sur 3 manches, donc vraiment là on est dans du draft, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a 2 originalités. La première, c'est que quand vous construisez votre cabane, votre arbre, il va devoir maintenir un certain équilibre. C'est-à-dire que si vous construisez une pièce sur la gauche, ben, l'arbre, il penche à gauche. Et vous pouvez plus construire à gauche, sinon l'arbre, il tombe. Donc vous êtes obligé de construire, en gros, un coup à gauche, un coup à droite. Alors c'est pas tout à fait aussi basique que ça, mais en gros, ça revient à ça. Donc il y a un petit marqueur équilibre au pied de l'arbre qu'on décale vers la gauche, vers la droite pour marquer l'équilibre de notre arbre. Donc ça fait que la construction, elle est pas, c'est pas juste j'achète une carte quoi. Et dans cette contrainte là, vient se rajouter une autre contrainte qui est que si on a déjà posé une carte d'une couleur donnée et qu'on veut en poser une deuxième de la même couleur, elle doit être adjacente à la première. Donc il y a 6 couleurs dans le jeu, et donc si on fait pas gaffe, on peut se retrouver assez rapidement avec une couleur qui est bloquée, puisque bah, si vous avez construit par exemple une carte bleue en bas, vous l'avez entourée avec des cartes d'autres couleurs, si vous voulez reconstruire une carte bleue, bah, vous pouvez pas, parce que vous pouvez pas construire de façon adjacente à la première. Donc ces 2 contraintes-là font que dans votre façon de construire, et donc dans votre façon de drafter, il va falloir être assez pointu. Donc ça, c'était pour la première subtilité, on va dire, par rapport aux autres jeux de draft que je connais. La deuxième subtilité, c'est qu'il y a un décompte de points qui se fait à chaque manche, donc entre chaque tour de draft, et que lors de ces décomptes de points, les joueurs vont pouvoir déclarer des couleurs qui vont rapporter le double de points pour tout le monde, et des couleurs qui vont rapporter aucun point pour tout le monde. Donc en gros, bon, c'est le joueur qui a le moins de points qui choisit en premier. Donc si par exemple lui il a construit beaucoup de bleus et que les autres ils en ont pas construit, bon ben il va mettre les bleus compte x2. Par contre, s'il n'était pas le premier à choisir, mais peut-être bien que quelqu'un d'autre aurait pris une carte pour dire les bleus ne rapportent pas de points. Et une fois que quelqu'un a dit les bleus ne rapportent pas de points, ben c'est trop tard. Lui, il peut plus dire que les bleus rapportent le double. Donc ça, c'est un petit peu vicieux parce que vous êtes obligé, quand vous construisez votre arbre, de faire vachement gaffe à ce que font les voisins et de vous dire, bon, je suis en avance en termes de points, donc je vais être le dernier à choisir. Donc c'est sûr, il y en a un qui va me saquer, il va me mettre que les bleus rapportent zéro. Donc faut que je fasse autre chose que du bleu. Mais ça, c'est compensé parce que dans le dernier des comptes en fin de partie, chaque joueur reçoit un point de plus s'il est majoritaire dans une couleur. Et du coup, ben, par exemple, le gars qui avait fait beaucoup de bleus, même s'il s'est fait saquer un petit peu en cours de partie par ses copains, qui disaient, ben non, les bleus rapportent pas de points, peut-être qu'en fin de partie, il aura, j'en sais rien, 6 ou 7 points bonus pour ses bleus. Donc bon, ça demande un petit peu de planification. Les cartes, elles sont en nombre égal dans la pioche, donc il n'y a pas de problème de répartition statistique. Donc c'est un jeu qui marche très bien, qui exploite très bien le mécanisme du draft parce que vous êtes obligé de faire en fonction des autres. Et puis avec cette contrainte là de la façon dont on pose les cartes, ben ça vous oblige à faire vos choix pas que en fonction du draft pur et dur, mais aussi en fonction de la façon dont ça se construit. Et ça tient, comme souvent pour les jeux de draft, ça tient très bien dans le temps indiqué, quel que soit le nombre de joueurs, puisqu'on joue de façon quasi simultanée. Et voilà, et avec un enfant de 6 ans, ça marche très bien. Il y a évidemment une légère difficulté à planifier, à comprendre cette histoire de « attention, cartes qui rapporteront pas de points, donc il faut que j'en tienne compte ». Bon, ça c'est pas forcément évident, mais sinon, complètement, le mécanisme du jeu marche très bien. Et la thématique, forcément, plaît beaucoup, et l'idée de déséquilibrer son arbre à gauche ou à droite, ça marche super bien aussi. Donc, c'est un jeu qui a été kickstarté avec succès par Green Couch Games, mais dont les fichiers print and play sont disponibles. En termes de matériel, c'est des cartes, y compris pour la piste de score, qui est sur des cartes aussi. Et puis quelques jetons, il faut un jeton par joueur pour matérialiser l'équilibre de l'arbre, et un jeton par joueur sur la piste de score. Donc voilà, en termes de fabrication, c'est vraiment très simple. Voilà. Ta réaction, Alexis?
Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir le jeu sous les yeux. Ce qu'on vous invite à faire quand vous écoutez nos chroniques et qu'on parle de jeu, parce que c'est toujours plus facile de se faire une idée. Surtout, en fait, c'est des graphismes très cartoon, enfin, très enfant. Enfin, je sais pas comment toi tu dirais
ouais,
ça.
Ça fait livre pour enfants, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, avec des baraques à hot dog, une bibliothèque, un magasin de bonbons, etc.
Faut savoir que dans les fichiers print and play, il y a moins de détails au niveau des dessins. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas mis en couleur, les dessins.
D'accord.
Il y a la couleur de la carte, mais il n'y a pas les détails de chaque couleur de dessin, quoi. Alors ça fait quand même un jeu qui est très joli. Puisque le dessin de l'arbre, lui, est bien en couleur, avec les feuilles vertes, le ciel, etc. Mais le dessin de la pièce, en dessous, il est en fait en noir et blanc coloré, quoi.
D'accord.
Bon.
Mais oui, mais c'est un jeu qui a été pas mal fait. C'est pas le jeu le plus fait le mois dernier sur...
Ouais, sur le mois d'avril, ouais, c'est le PNP Hotness.
Mais oui, sur la liste que tu tiens un jour des... print and play qui sont signalés comme faits par la communauté print and play qui participe à ces listes.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça qu'on en parle, puisque c'est moi qui l'ai choisi parmi ceux que tu m'avais cités, puisque j'en avais entendu parler, que j'étais curieux de savoir un petit peu à quoi ça ressemblait.
Bah, c'est sûr que c'est pas un jeu qui va
marquer l'histoire.
Il a vraiment, enfin non, mais même, enfin pour moi si, clairement il marque l'histoire parce que c'est un des premiers jeux complexes comme ça auquel peut jouer mon gamin. Donc pour moi quelque part il marque l'histoire. Mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas un jeu qui va marquer les gros amateurs de draft, les joueurs de Seven Wonders. Il n'y a pas du tout la même profondeur bien sûr dans ce jeu-là. Mais par contre, ça, c'est un jeu qui reste vraiment plaisant, auquel les gens ont plaisir à jouer, et à mon avis, qui ressortira régulièrement, quoi, chez moi.
Ouais, puis en plus, c'est combien de cartes? Enfin, ça, c'est vraiment pas énorme, parce qu'il y a, parce que 10 jetons.
Le deck doit faire, attends, c'est marqué là. Dans la règle, ils disent quoi? Ah oui, et j'ai traduit la règle, au fait. Ça fait partie des trucs qui doivent vous inciter à aller voir. Je traduis la règle, elle est sur le wiki imprime. Il y a 72 cartes pour matérialiser les pièces de la cabane. Donc il y a 6 couleurs, 12 cartes de chaque. Après, il y a les cartes pour faire la piste de score, et il y a les cartes pour faire le plateau, on va dire, individuel de chaque joueur. Plus quelques petites cartes, enfin 10... 17,
ouais, moi, il y a 100 cartes.
Il y a une centaine de cartes, quoi.
Ouais, donc, oui, non, ça, c'est pas un jeu qui prend beaucoup de place non plus, donc c'est toujours sympa de pouvoir transporter. C'est...
J'ai mis dans une boîte de VHS, mais en effet, il pourrait rentrer dans une boîte plus petite que ça, quoi.
Ok. Et donc, du coup,
on a une super transition.
Ah, mais comme d'habitude, sans transition,
on est trop fort.
Land 6. Alors je sais pas si on mettra la musique de Woodkid comme pour le jeu que t'avais chroniqué de je sais plus ni le nom du jeu ni le nom de l'auteur, c'est pas grave.
Okay.
Parce que là
Shadows upon the Sadar de Todd Sander.
Pourtant Todd Sander c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. Bref. Non parce que le pitch de Land 6 il tient en trois lignes. En fait, vous êtes les seigneurs des dés. Lutte éternelle contre le seigneur des cubes, vous battant pour un monde appelé Land 6. Pour gagner, vous devez conquérir la cité de votre ennemi, et cela avec uniquement 6 dés. Voilà, fin du pitch. Alors, le matériel du jeu est aussi succinct et court que le pitch du jeu. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait au départ, parce que c'est vrai que c'est situé l'affaire, donc que moi j'ai fait sur Lino avec des dalles autocollantes. Ensuite il faut 6 dés, 6 cubes et un autre dé d'une couleur différente, puisqu'il servira à d'autres choses.
Ouais, enfin, même si c'est la même couleur, c'est pas très grave, hein. Il suffit de
le
mettre de côté.
Comme ça fait vraiment... C'est le top. c'est, vous aurez le top du jeu. Donc comment fonctionne le jeu? Donc déjà, c'est un jeu de Santiago Eximeno, donc qui a la fâcheuse tendance d'utiliser les dés d'une manière avec laquelle on n'est pas toujours habitué. Il avait déjà fait Colony 9, qui avait gagné le concours du jeu solo l'année dernière, si je me trompe pas.
Ouais, non, c'était Supermarché, ça doit être l'année d'avant.
C'était donc l'année d'avant. Et si vous voulez vous faire une petite idée, le plus simple, comme c'est un jeu qui est un petit peu complexe, au début je voulais le chroniquer, puis en fait on s'est dit non, il est un peu... il a besoin d'un peu de visuel pour être expliqué. Vous pouvez aller y jouer sur le blog de Siol. Alors, je vais même pouvoir vous donner l'adresse. Si... Ah, bien. La transition, voilà. Tac, 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 tac. Pardon. Hop, hein, ça va être coupé au montage. Ah ouais. C'est vrai que nous, on se fait avoir parce qu'on n'a pas de bière.
On a non, pas. C'est ça. Olivier et Jérémy, quand ils ont comblé, pendant qu'il y en a un qui va chercher une boîte.
Je te fais un café. Avec un petit peu de calva, s'il te plaît. Donc, le blog de Siol, c'est très simple. C'est http://siol.fr/colony9, donc c'est colony9/, et vous arriverez sur l'interface du jeu, donc développée en HTML5, et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez même passer sur le chat proxy jeu, parce qu'il est là quasiment tous les jours, et qui pourra vous aider, et puis nous aussi d'ailleurs, parce qu'on est là aussi, et qu'on a à peu près tous joué au jeu, parce qu'on l'aime bien.
Et franchement, allez-y, c'est vraiment un bon jeu, Colony 9. En effet, on n'en parle pas plus en détail parce que c'est un peu visuel, même si les graphismes sont très simplistes, mais l'organisation, on va dire, du jeu est complexe. Mais par contre, c'est vraiment intéressant en termes de mécanisme et en termes de stratégie, et c'est pas du tout un jeu facile.
Bah, c'est un jeu qu'en faisant, je n'y avais jamais joué, parce qu'il était pas assez sexy, et puis finalement, les règles sont denses. Non, enfin, elles auraient pu sans doute être plus courtes. Enfin, en tout cas, j'avais été un peu rebuté par les règles. Alors qu'en fait, du coup, avec l'interface, c'est beaucoup plus simple. Et le jeu, est effectivement, mérite d'approfondir les règles et de passer le cap de l'absence de sexiness.
L'Antic, c'est un petit peu pareil. Je crois qu'en fait, Santiago Ximeno, il faut pas oublier qu'il est espagnol quand même. Et il est pas forcément super bon pour écrire des règles en anglais. Enfin, quand on compare avec certains auteurs où on a l'habitude de règles vraiment concises, ultra précises et tout. Par contre, ces jeux en termes de mécanique sont intéressants, donc ça vaut le coup d'aller outre cette petite difficulté de règles pour aller au bout et découvrir le jeu, quoi.
Alors, Land 6, c'est quand même moins rebutant de ce côté-là, parce que j'ai les règles en main, elles font 4 pages.
Une page, quoi.
C'est une, enfin, moi, je l'ai imprimé sur A4, plié en deux, recto verso, et c'est parfait. Sachant qu'il y a deux gros schémas, donc, enfin, il y a 3 pages de texte, dont une intro, enfin, bon, bref. Donc, vraiment, elle reste assez, assez simple. Donc, Land 6, en fait, on va voir 6 tuiles, numérotées de 1 à 6, qu'on va placer en plaçant d'un côté la tuile 1, on va placer de l'autre extrémité la tuile 6, et au milieu on va passer un carré des 4 tuiles restantes dans l'ordre qu'on veut, peu importe. Et puis on va placer un dé sur la ville de la tuile de départ. Donc chaque tuile est identique à part le numéro qu'elle a dessus, donc de 1 à 6, et elle contiendra une cité, une mer, une forêt et des champs. Donc on démarre, alors selon le mode de difficulté, mais vous pourrez aller voir les différents modes de difficulté, avec un dé à 6 sur la ville de la tuile 1, et pour gagner, vous devrez arriver à placer une armée sur la ville de la tuile 6, qui est une valeur d'au moins 3. Parce que vous verrez qu'en fait, pour utiliser vos dés et faire des actions, vous allez à chaque fois réduire de 1 la valeur d'un dé sur une case. Donc selon les cases, enfin selon les endroits où on va activer son dé, que ce soit une cité, une mer, une forêt ou un champ, on va pouvoir faire des choses différentes. Alors la cité va permettre de faire arriver d'autres dés, elle va permettre aussi de déplacer des dés. La mer va permettre de relancer des dés, donc c'est ce qui va permettre de un petit peu d'éviter de perdre trop vite ses valeurs, enfin parce qu'il y a des actions importantes. Les champs vont permettre de nourrir et donc de rajouter un sur tous les dés qu'on a déjà déployés sur les différentes tuiles. Et les forêts vont permettre d'attaquer les cubes du seigneur des cubes. Donc le jeu, comment il fonctionne, en fait, à chaque tour on va faire une action, donc on réduit la valeur de 1 d'un dé sur une ville, etc., ce qu'on veut, on effectue l'action, et ensuite le seigneur des cubes va tenter de déployer une armée. Donc on lance un dé, ça indique une tuile, si sur cette tuile-là il n'y a pas encore d'armée du seigneur des cubes, on place un cube, et si il y avait déjà un cube, dans ce cas-là on va devoir réduire un dé sur une cité, donc non, s'il y a un dé sur la cité de la tuile concernée, ce sera celui-là, sinon ce sera une autre cité. Voilà, donc du coup en fait les dés arrivent assez vite et on s'aperçoit qu'il faut très rapidement aller combattre, sauf que
les cubes, tu veux dire?
Oui, les cubes arrivent très vite,
ouais.
Et du coup on va devoir aller combattre assez rapidement, mais finalement les dés réduisent très vite, donc pour pouvoir combattre efficacement on va avoir besoin d'un dé sur la mer pour pouvoir relancer nos dés, parce que la particularité, en fait, ce qui va nous permettre de ne pas nous effondrer, c'est ça repose principalement sur l'attaque. En fait, quand on attaque, donc on réduit de 1 un dé sur une forêt, on lance le dé roux, enfin un dé d'une autre couleur. Si on effectue un 5 ou un 6, on va pouvoir détruire un cube et on va pouvoir rejouer une action. Et c'est ce résultat-là qui généralement va nous permettre de rattraper un retard ou d'éviter de se faire complètement dépasser par le seigneur des cubes. Si on fait un 4, juste on détruit une armée. Si on fait 3 ou 2, il y a rien qui se passe. Et si on fait un 1, là c'est le jet foireux, on perd un point supplémentaire sur un déplacé sur une forêt. Donc du coup, c'est voilà, et en fait, on s'aperçoit que très rapidement, en fait, on a besoin des cités, des champs, des mers et des forêts. Et c'est tout un équilibre qui s'installe et qu'il faut arriver à trouver pour arriver déjà au début. Moi, la première partie, je me suis fait mais écraser. Et puis, à force de jeu, on commence à comprendre que attaquer sans mers, c'est pas, enfin que vraiment le retard, on le rattrape avec les attaques qu'on va faire en arrivant à faire un 5 ou un 6. Et pour arriver à faire un 5 ou un 6, finalement, la solution, c'est de relancer des dés. Et puis, il faut des champs pour pouvoir remonter les dés. Et puis, il faut arriver à avoir des dés aussi sur les cités pour pouvoir déplacer ses armées, pour se rappeler de rapprocher de la tuile 6, puisque c'est là qu'on doit aller.
Même pour attaquer, il faut se rapprocher, je crois. Moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment une des grosses difficultés, c'était d'arriver à se déplacer, en fait.
Alors, je ne suis pas sûr pour moi, on attaquait n'importe où.
Ah, je me trompe peut-être.
Mais j'ai refait une partie, les premières parties que j'avais fait, j'avais oublié des points de règle. Et je n'étais pas sûr de bien jouer, mais en les relisant là, ça me semblait plutôt libre sur ce point-là. D'accord. Donc voilà, mais il va falloir que tu révises les règles, puisque j'ai cru entendre que tu adaptais le jeu pour une application Android.
Ouais, je suis collabore avec le gars de BoardNote Studio, c'est eux qui ont déjà porté sur Android Castle Builders, Mackie et Cheese Chasers. Et en fait, j'ai pris contact avec lui, j'ai dit, tiens, ça m'amuserait de participer. Il m'a dit, ah, pas de problème, vas-y, qu'est-ce que t'as envie de faire comme jeu et tout. Et donc, bon, on en a listé un certain nombre. Et c'est vrai que Land 6, il était assez simple en termes de règles dans mes souvenirs. Donc, je me suis dit, c'est bien pour démarrer le développement Android. Moi, j'ai jamais développé sur Android. Bon, ça reste du dev, ça va, c'est ma partie, mais c'est un petit peu particulier quand même sur Android. Donc, il fallait un truc simple et ça part bien. Du coup, évidemment, on collabore aussi avec Santiago Gizimeno, parce que
qui doit être ravi.
Il faut avoir son accord.
Ouais.
Oui, bien sûr, il est ravi, mais aussi il participe pour nous fournir des fichiers en haute résolution, etc. Enfin, vu les fichiers, vu le look, c'est pas très très important, mais et puis il a son mot à dire aussi en termes d'ergonomie et tout ça. Enfin, ça reste son jeu, quoi. Donc ça. Bon, après, je vous donne pas de promesse de quand ça va sortir, parce que autant lui que moi, on fait ça sur notre temps libre. Et moi, j'y accorde très honnêtement pas tant de temps que ça. Je préfère jouer ou fabriquer des jeux qu'être devant mon ordi à coder toute la soirée comme la journée au boulot, quoi. Mais ça sortira, quoi.
Mais c'est bien déjà de jouer aux jeux qu'on craft, parce que tout le monde n'y arrive pas.
Ah, j'essaye de faire de plus en plus des jeux qui se jouent à un et plus. Comme ça, au pire, j'y joue tout seul, quoi.
Par contre, je note que je n'ai carrément pas dit comment on gagne ou qu'on perd, en fait. Si, pour gagner. Par contre, j'ai pas dit comment on perdait, parce qu'on peut perdre de plein de façons. Enfin, plein de façons. En fait, on perd si le seigneur des cubes a réussi à placer un cube sur chacune des tuiles, on perd immédiatement. Si le seigneur des dés n'a plus de dés dans une ville, comme il peut plus faire
au moins une ville,
voilà, et il meurt, parce que de toute façon il pourra plus se déplacer et il pourra plus faire arriver de nouveaux dés. Donc en fait, ça c'est, enfin, de toute façon, les règles font que de toute façon, même si on mettait pas ce point là de toute façon, à ce moment là c'est
l'agonie, quoi.
Voilà, on mourra de toute façon. Par contre, si on arrive à placer un dé d'une valeur d'au moins 3 sur la ville de la tuile 6, là, on met fin à la partie et on a gagné. Par contre, on va calculer son score. Alors, comment on calcule son score? C'est tout simple. On fait la somme de tous les dés qui sont sur des villes. Donc, on somme leur valeur, que l'on multiplie par le nombre de villes concernées. Donc, si j'ai un 1 et un 2 sur deux villes différentes. Du coup, je vais avoir 3 fois 2, 6 points. Alors, avec 6 points, je suis dans la catégorie les enfants des dés.
Loser absolu.
La... voilà, c'est à peu près ça. Et donc, pour être vraiment très très fort, faut faire plus de 100 points. Alors, sachant que le maximum absolu, ce serait 36 x 6, mais qu'on peut même pas arriver à ça, puisqu'il faut faire forcément une action de déplacement pour arriver à ça, et que si des dés à la fin de leur déplacement arrivent dans une ville et qu'il y a plusieurs, enfin qu'on possède plusieurs villes, on les diminue aussi. Donc le maximum en fait, quand on applique toutes les règles, c'est 5, sur qu'on va avoir 5 sur chacune des villes. Donc ce sera 30 x 6. Et je souhaite bon courage à quelqu'un qui veut y arriver. Et donc il y a plusieurs modes de difficulté et déjà c'est un challenge d'y arriver en mode facile, donc moi je vous recommande très chaudement ce jeu, sachant qu'en termes de graphisme, donc c'est du Santiago Ximeno, donc Santiago fait du design avec les icônes Game Icon, voilà, donc c'est des icônes déjà vues des maintes et maintes fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la chance c'est qu'il y a 3 versions. Parce qu'il y a des gens qui ont bien aimé le jeu et qui du coup ont choisi d'en refaire des versions. Donc il y en a une qui est très 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 colorée, qui est très sympathique. Et puis sinon il y en a une un peu plus réaliste avec des graphismes qui rappellent un petit peu les colons de Catan. Je crois que c'est l'inspiration qui avait été utilisée, si j'ai bien lu.
Ouais, ouais.
Bon, la ressemblance est pas flagrante, mais on a sur un des dessins un petit peu plus réaliste où on a une forêt avec des armes, etc. Enfin voilà. Et du coup moi j'ai fait toutes les versions, comme ça au moins je joue avec celle que je veux quand j'ai envie. Et donc mais je vais peut-être arrêter là parce que je suis déjà très très bavard. Et donc allez-y, c'est bon, mangez-en.
Bon, et puis on va finir par un petit jeu, en tout cas la présentation va être rapide. Même si le jeu recèle pas mal de choses. C'est un jeu qui s'appelle Pairs. C'est un jeu de James Ernest et, pour une fois il est pas tout seul, et Paul Peterson. Donc c'est un jeu qui est chez Cheapass Games, que vous connaissez déjà. Donc c'est un jeu, mais c'est aussi un deck de cartes. Donc la particularité du deck, c'est qu'ils appellent ça un deck triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a 1-1, 2-2, 3-3, jusqu'à 10 cartes qui portent le numéro 10. Donc ça fait un total de 55 cartes, si j'ai bien compté. Donc ça, c'est une information, évidemment, qu'il faut donner aux gens avant de jouer, sur la, on va dire, comment ils fabriquaient le deck, parce que ça a un impact très important sur le jeu. Donc le jeu de base, enfin le concept général de Pairs, c'est qu'on veut pas faire des paires. Et donc évidemment, les petits chiffres ont moins de chances de faire une paire que les gros chiffres. Donc beaucoup de variantes autour de ce concept de base. Le jeu de base, donc de Pairs, c'est chaque joueur commence avec une carte devant lui face visible, et à son tour de jeu, un joueur peut décider ou bien de se coucher, ou bien de piocher une carte supplémentaire sur la pioche. Mais en faisant ça, s'il se retrouve avec une paire devant lui, il a perdu, et il doit marquer autant de points que la valeur de la carte qui lui a fait faire une paire. Donc s'il y a une paire de 8, ben il fait 8 points. Et donc évidemment, le but c'est d'avoir le moins de points possible, et selon le nombre de joueurs, le premier arrivé à 21 a perdu, etc. C'est un jeu où il n'y a pas de gagnant, il y a un perdant, et dès qu'il y a un perdant, on s'arrête. Si vous décidez de vous coucher, vous allez prendre comme point la valeur de la carte la plus faible qui est visible sur la table. Donc ça peut être chez vous, mais ça peut être chez un adversaire aussi. Donc typiquement, dès qu'il y a un joueur qui a la carte 1 ou la carte 2 devant lui, ben les autres ils vont avoir tendance à se coucher, à prendre un point ou deux points, et puis à pas prendre le risque d'aller choper 9 points ou ce genre de choses. Donc voilà, le concept de base est là, c'est tout, c'est très simple, ça se joue... Donc ce jeu de base peut se jouer de 2 à 8 joueurs. La manche, elle dure vraiment 3 minutes. Et c'est assez rigolo, mais un petit peu frustrant, parce qu'en termes de stratégie, bon, il n'y a pas grand-chose. C'est du bet stop ou encore, avec une petite dimension statistique on sait que si on a un 10, on a beaucoup plus de chances de faire une paire que si on a un 4, par exemple. Et du coup, avec... Non, il faut que je vous parle de comment ça a été édité d'abord, pour vous expliquer d'où viennent toutes ces variantes qu'il y a derrière. En fait, le jeu, il est édité sous plusieurs graphismes. C'est-à-dire que le jeu de base, Pairs, c'est des fruits et légumes. Après, il y a eu un deck un peu cyberpunk. Il y a eu un deck avec des espèces de licornes. Il y a eu un deck avec des gobelins, etc. Il y a eu plein de decks différents. Donc, le principe reste le même. Une carte de valeur 1, deux cartes de valeur 2, etc. jusqu'à 10 cartes de valeur 10. Mais avec des illustrations différentes. Et à chacun de ces decks, ils ont mis dans le paquet la règle du jeu de base et une variante. Et du coup, forcément, sur Internet, les gens de Cheap Ass Games, ils ont publié un PDF où il y a toutes les variantes disponibles. Et alors, c'est assez sympa parce que vraiment autour de ce concept qui est « je veux éviter les paires », ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux différents. Des jeux de paris, des jeux d'enchères, voilà, où il faut des jetons de poker pour jouer. Des jeux où les joueurs ont des cartes en main et vont les jouer dans un certain ordre. Où les joueurs vont acheter des cartes qui sont offertes au centre de la table. Il y a beaucoup de variantes. Il y a une variante à deux joueurs que moi j'aime beaucoup, qui rappelle un petit peu Schotten Totten, là, où on essaye de gagner les cartes qui sont au centre en jouant de son côté, ou l'adversaire joue de son côté. Il y a vraiment beaucoup de variantes différentes. Du coup, ben, forcément, selon les variantes, le jeu est plus ou moins intéressant, plus ou moins long, et adapté à des âges plus ou moins élevés. Mais globalement, c'est vraiment sympa. Donc, vous pouvez trouver sur Internet, évidemment, tout un tas de variantes en termes de thèmes, ne serait-ce que les variantes de départ. Moi, j'ai fait ma propre variante sur la thématique de Paper and Carrot. Un web comic, une BD que vous pouvez trouver sur Internet. Qui est disponible en Creative Commons. Donc là, l'auteur, il dit clairement dès le départ, allez-y, prenez mes images, quoi. Et j'ai d'ailleurs son accord pour publier mon deck, donc je le ferai. Je le publierai, mais du coup, ça veut dire que c'est aussi un jeu que vous pouvez facilement rethématiser. Et comme c'est un deck triangulaire, vous pouvez jouer à Abracadacqua avec... Voilà, j'ai fini. Abracadacqua, c'est rigolo aussi.
Ouais. Curio. Ou Chozon.
Ah oui, j'avais pas pensé, mais ouais. En effet, tous les jeux qui se jouent avec un deck triangulaire, quoi.
Ouais, parce qu'on a...
ce qu'ils appellent un deck triangulaire. Il y en a quelques-uns. Mais Corio et tout ça, il y a des pouvoirs sur les cartes, non?
Oui, mais quand tu connais les pouvoirs.
Ah oui, voilà.
Chozon, il y a des marqueurs en plus, ça peut être un peu plus embêtant, mais Corio ne pose aucun problème, comme Abracadabra ne pose aucun problème.
Bon, ceci dit, Abracadabra, c'est comme un habit, c'est quand même plus sympa avec des jetons qu'on pose devant soi qu'avec des cartes à tenir dans la main.
Bah, de toute façon, c'est toujours plus sympa de jouer au jeu avec des jeux appropriés, enfin, qui soient vraiment...
Oui, qui soient faits pour ça, ouais. Bon, enfin, c'était la petite histoire pour dire que... Alors, du coup, en effet, on a beaucoup de variantes et on peut aussi jouer à des jeux, d'autres jeux qui se jouent avec un deck triangulaire, quoi. Bon. Voilà. Pour Pairs, ça t'a tenté?
Moi, quand j'ai vu les graphismes, j'étais content de savoir que t'allais en parler dans la chronique. Et comme je ne connaissais pas le jeu, en plus, maintenant, oui, effectivement, je pense que ouais, je voulais déjà le faire parce qu'il était très très beau, et maintenant, je veux le faire en plus pour y jouer, pour voir, parce que je savais pas qu'il y avait tant de variantes que ça, donc ça peut être sympathique.
Ouais, ouais, dans le PDF là dont je parle, il fait une quarantaine de pages. Hein.
Parce qu'en plus, 45, c'est combien de cartes? 55,
ouais.
55, c'est pas énorme en termes de pages de découpe, hein. 9 pages par carte, par page, c'est vite fait.
Je suis en train de regarder dans le PDF combien il y a de variantes. Il y en a 13.
Ah, ça porte malheur.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, mais il y a le jeu de base, ça fait 14.
Ah, on est sauvés.
Mais ouais, non, franchement, c'est bien, et puis vraiment il y en a tous les goûts. Si vous êtes dans une soirée où les gens ils aiment le poker et puis c'est tout, parce que enfin voilà, c'est pas forcément des joueurs de jeux de société, ben là vous allez pouvoir leur dire, ah ben tu connais le poker, attends, voilà ta main de carte, voilà tu mets un au milieu, tu meta-blend. Enfin, vraiment, il y a certains des jeux qui marchent comme ça. Meta-blend, et puis à chaque tour, ben, tu continues ou tu t'arrêtes. Enfin, et du coup, ça va très bien marcher avec des gens qui sont habitués à jouer au poker, par exemple. Et après, les jeux d'enchères ou autres, ça va peut-être plutôt marcher avec des joueurs de jeux de société, mais, enfin, globalement, c'est un jeu qui peut marcher avec tout le monde, quoi. Y compris des enfants.
Et ton deck est magnifique.
Ouais, je suis assez content, monsieur. Je vous mettrai des photos. Du coup, je ferai la page sur le wiki et puis je mettrai des photos un peu de tout ça. Et puis voilà. Bon, on est vraiment mauvais pour les introductions, les conclusions, les transitions. On va pas en faire et puis voilà. Quoi.
Et donc, sans transition, je me suis essayé à l'exercice de la présentation de jeu avec Guilain qui lui en a déjà plus l'habitude que moi. On se retrouvera pour un dernier épisode de la saison la prochaine fois. Je ne sais pas exactement quand on va être publié puisqu'on a été un petit peu en retard, etc. On a eu pas mal de problèmes d'enregistrement avec finalement un enregistrement qui se termine sur téléphone puisque l'ordinateur plante. Donc voilà, rendez-vous pour la dernière chronique Do It Yourself le mois prochain ou je ne sais pas. Et puis en attendant, maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, jouez bien.
Et dans ce numéro, on va également parler de jeux de rôle. Tu veux nous parler de jeux de rôle, Geoffroy ?
Alors,
en plus de la semaine dernière.
Mon MJ préféré, il y a deux choses, m'a demandé c'est quoi les jeux de JDR du moment, sachant que ça fait 15 ans que j'ai pas joué.
Et donc tu as répondu.
Benson Baker !
Je sais pas qui c'est.
Apocalypse World.
Ah d'accord. Okay, non, ce sera probablement pas ça, il veut du mainstream.
Bah c'est
mainstream pour Olivier.
Ça en passe de passer de devenir mainstream. Alors
c'est après si jeu c'est mainstream.
Non mais en fait ça me permet de faire une transition vers sans te répondre absolument pas. Sur une news que j'avais, c'est la boîte à eux qui ferme. La boîte à eux, c'est Ludovic Papaïs qui est maintenant chef de projet chez Yellow. Donc Ludovic Papaïs a monté une boîte qui s'appelait la boîte à eux, entreprise qui s'appelait la boîte à eux, qui avait pour vocation de permettre de bénéficier des jeux de rôle de La Forge. La Forge étant un courant américain, j'espère ne pas dire de conneries, de jeux de rôle plutôt modernes avec plutôt un côté narrativiste, plutôt avec une responsabilité partagée entre les joueurs, sans vraiment de MJ, avec des jeux de rôle où tu peux avoir deux joueurs. Dans certains cas, comme My Life with Master ou Breaking the Ice, où tu as des rapports humains qui sont mis en emphase et qui sont compliqués à jouer, parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a un rapport de domination, etc. etc. Donc, la boîte à eux, ils ont sorti peut-être une quinzaine de jeux de rôle. Et puis, alors c'est mon interprétation, Ludovic ayant cette occupation chez Yellow, ils ont fermé boutique. Et ils ont déstocké et ça m'a fait j'ai pu récupérer un Polar Base, j'ai récupéré un Apocalypse World, donc je suis très content, mais d'un autre côté je suis un peu triste parce que c'était une façon, tu vois, c'était un dealer en fait pour ce genre de jeux qui sont des jeux un peu à part. Je prends le cas de Apocalypse World, on a fait une partie ce week-end. Quand tu joues à Cthulhu, les rôles sont bien établis. Une équipe, des gens qui vont jouer ensemble, avec des personnages qui sont différenciés, mais qui ont un but commun. Et comme disait Peggy ce week-end, Apocalypse World, c'est du PVP. C'est-à-dire, t'es du joueur contre joueur, t'as des antagonismes, et tout l'intérêt de ce jeu de rôle, c'est justement pas d'avoir un but commun, mais c'est la vie, quoi. Ton voisin t'emmerde.
Walking Dead.
Ouais, et dans un monde apocalyptique. D'ailleurs, ton chef te fait chier, ton voisin t'emmerde, tu vois, c'est. Mais dans un monde où t'as un flingue, et où quand il y a quelqu'un qui vient te faire. Tu mets une balle dans la tête.
Alors, les parties sont très très courtes alors.
Tu peux. Après,
plusieurs balles.
Après voilà, c'est un rapport de force et si tu sors ton flingue, il faut
t'attendre
à ce qu'il y ait du rabuge aussi pour toi. Ouais, quoi. Okay. Et ça se joue, ça peut se jouer en one shot, mais moi la difficulté que j'ai, c'est que quand je le propose à des joueurs, c'est des bisounours. Et là encore,
forcément, c'est comme ça qu'on est.
Là encore, il y a eu un truc. Je les ai prévenus. Attention, il y a des antagonismes, des machins. J'ai posé la question. En plus, il y a cette façon de présenter les choses qui est, c'est pas toi. Enfin, t'arrives sur la partie, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas quels sont les joueurs. T'as des sortes de profils et tu sais pas ce qui va aboutir de ça. Et la première partie, c'est une mise en scène. Tu vas savoir que Jérémy, il fait tel personnage, un biker par exemple. Et après, tu as des HX, donc c'est de proximité avec certains autres joueurs. Et par exemple, Franck va jouer un céphale, qui est un truc un petit peu...
Perché.
Et tu vas savoir qu'ils ont eu des rapports un peu conflictuels dans le passé, qu'ils ne s'entendent pas. Tu poses les choses et tu vois, et tu dis à vous les gars... Vous traînez des casseroles, donc il faut vous en servir, tu vois. C'est... Et là, donc il y a ça, et après pendant la partie, tu mets à contribution aussi beaucoup plus le joueur. Donc là, je suis en train de poser le jeu de rôle d'il y a 15 ans avec le jeu de rôle de maintenant. Tu le mets plus à contribution. Tu tournes vers un joueur, tu dis bon, ben maintenant, qu'est-ce qui lui arrive à l'autre là, à ton voisin de gauche, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi qui va décider, c'est pas le scénario qui va décider, c'est la un des joueurs. Qui va prendre en main le destin qui auparavant était plutôt dans les mains du MJ. Il va dire à lui, il y a le gros Dédé qui est venu le voir et là il lui doit de l'argent, donc il veut lui casser la gueule.
Tu dis que les joueurs gèrent les PNJ?
Je veux dire que les joueurs peuvent amener à l'histoire de la richesse qui serait ils ont un rôle qui est précédemment plutôt donné au MJ. C'est-à-dire que c'est le MJ, c'est lui qui va dire « Ah bah tiens, il y a le gros Dédé qui vient te voir parce que tu lui as de l'argent. » Là, l'idée, elle vient pas de toi, elle vient des joueurs qui sont autour de la table.
D'accord.
Et c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on joue avec des gens qui ont un background, qui ont déjà joué au jeu de rôle et qui ont cette limitation qui est... J'ai demandé à quelqu'un, je crois que c'était Guillaume, je lui ai dit « La pire chose qui peut arriver à ton personnage, c'est qu'on rentre chez lui. » Ok. Au fait, vous avez planqué de la drogue chez ce gars-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de leur péter la gueule, il a dit « Non, non, mais on va s'arranger, vous allez pouvoir en planquer encore plus. »
Non, c'est moi qui l'ai poussé à faire ça, mais...
Vas-y.
C'est moi qui l'ai poussé à faire ça, en fait, qui essayait d'arranger les choses entre lui et le dealer.
Mais c'est pas normal. Enfin, dans un monde apocalypse, il aurait dû lui tirer une balle dans la tête, quoi.
Parce que toi, tu vois le monde, c'est post-apo, donc il n'y a plus de règles, tout le monde s'entretue, et pour moi, c'est post-apo, donc il faut tout reconstruire, et on ne peut pas le faire tout seul.
Raphaël sait pas jouer à Apocalypse World.
C'est ça.
Voilà, donc pourquoi je parle de ça parce que je crois qu'ils détiennent les droits d'Apocalypse World, je milite pour ça, pour des jeux qui ont une profondeur c'est-à-dire quand tu joues à Cthulhu, tu joues à un investigateur, tu vois, t'as ta fiche, toi t'es bibliothécaire, et puis
t'as 50% en trouve objet caché.
Voilà, là en l'occurrence. Tu joues plus sur les sentiments, tu vas plus chercher à l'intérieur de toi des choses, et c'est un peu plus. Alors peut-être qu'il y a d'autres jeux qui s'y prêtent plus, donc qui s'y prêtent mieux. Mais je pense que tout ce courant-là, il te demande de mettre un peu plus de toi dans le jeu de rôle, et c'est ce que j'aime dans le jeu de rôle moderne.
Alors moi, ça m'étonne un petit peu dans le sens où. Dans les campagnes vampires qu'on a fait, on était dans une situation où on acceptait de dire au MJ quelles sont les merdes qui nous arrivaient.
Mais vampire, c'est un peu différent déjà. Je sais pas, il avait déjà une façon de.
Oui, il était
il
déjà.
Il amenait déjà, de toute façon, c'était un des premiers jeux qui amenait effectivement les joueurs à participer.
Ouais, tout à fait. Et donc de dire, finalement, on va dire pour mon background personnel. Même si c'est au cours de la campagne, à ce moment-là, il va m'arriver un truc. C'était pas moi qui définis tous les tenants et les aboutissants. J'imagine le faire, mais le joueur construit sa propre histoire avec le MJ, pas en réaction au MJ en fait.
Ouais, enfin le MJ. Après, tu dis en réaction au MJ, le MJ. C'est pas, enfin c'est juste un outil du destin, tu vois, c'est pas C'est l'histoire, réaction à l'histoire. C'est pas, faut arrêter de penser le MJ comme le grand méchant loup.
Oui, bon. Non.
Alors que le grand méchant loup, c'est ton voisin de gauche.
Oui, effectivement, je me retrouvais parfois avec mon voisin comme un de mes ennemis, entre guillemets, mais pour des périodes très courtes.
Sauf que dans Vampire, c'est un peu. T'es pas dans du post-apo, c'est-à-dire qu'il y a quand même la Camarilla, il y a des règles, et je pense que justement, là, c'est beaucoup moins les antagonismes, tu peux les avoir, mais elles seront forcément limitées parce que tu vas pas tuer un de tes camarades.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, Apocalypse War, c'est encore autre chose, peut-être que Vampire, c'est un jeu qui a plutôt servi de terreau à ce qu'on a maintenant.
Pour finir, boîte à eux,
oui.
Les jeux qui traduisaient, donc qui étaient édités, format américain.
Oui.
Mais du coup, l'avantage de la boîte à eux, c'est que ces jeux, ils arrivaient jusqu'en France.
Ouais.
Bah, en français déjà, et surtout, ils étaient en France. S'il n'y a plus de traduction, est-ce que les jeux, du coup, ces jeux vont arriver déjà, ne serait-ce qu'en anglais?
Alors,
ce qui vont arriver.
Déjà, c'est ça. Déjà, si vous voulez jouer à Apocalypse World, allez sur le site et tardez pas.
Sur le site de
la boîte à eux, vous allez chercher les PDF parce que quand vous avez le PDF, vous avez quasi tout en fait. Alors, t'as pas le background, mais t'as les différents personnages, les actions qu'ils peuvent faire. Et puis après, t'as 30 pages de PDF. Mais en fait, t'as 3 pages par page A4. En fait, la base, elle est bizarrement faite. Je te montrerai tout à l'heure. C'est très très aéré. Et sur les 30 pages de PDF, t'as énormément de choses. Donc, vous pouvez récupérer quasiment les règles du jeu de rôle et vous pouvez clairement jouer avec.
C'est gratuit ou c'est vendu en PDF?
C'est gratuit.
Okay. Mais donc ça veut dire qu'après les jeux, c'est les gens qui veulent encore ces jeux-là en anglais, ils auront plus de mal à se les fournir ou peut-être qu'ils sont trouvables en PDF auprès de l'éditeur anglais.
Alors moi après, c'est Peggy qui m'a parlé de narrativiste.eu et effectivement, il y a des choses qui sont aussi des choses un peu, des jolies choses. Et notamment, elle m'a parlé de The Quiet Year, c'est Une année de répit. Qui est un jeu de rôle, elle me l'a expliqué, j'y ai pas joué, il faut absolument que j'y joue et je vous en ferai un débrief. C'est un jeu de rôle où tu vas créer ton village. Et elle s'en sert elle y joue avec des enfants. Et c'est borné parce que tu vas jouer avec des cartes. En fait, tu vas tirer des cartes, tu sais, des cartes à jouer où tu peux jouer avec un. C'est ce qui prend aussi, mais. La base se sert d'un jeu de cartes traditionnel. Et en fait, quand tu vas tirer une carte, c'est un événement qui va arriver. Et en fin de compte, tu vas avoir. Tu vas pas avoir de MJ. Tous les joueurs autour de la table vont pouvoir apporter des actions à réaliser, des projets à construire dans le village. Et puis, il va se passer quand même quelque chose, des éléments perturbateurs qui vont venir mettre un peu de chaos dans l'histoire qui va être racontée. Ce que je veux dire, c'est que. La boîte à eux est en train de fermer. Vive la boîte à eux, enfin le roi est mort, vive le roi. Je pense qu'il faut que je regarde du côté de narrativiste parce que.
Enfin, ils ont un article qui date du 18 août 2014 qu'ils appellent C'est fini.
Ah merde.
Alors je sais pas si c'est le site, si c'est toute la production, mais en gros ils disent voilà, ils arrêtent aussi quoi. Et donc le jeu dont tu me demandes s'appelle Un an de répit, alors espérons qu'au 18 août 2015 ils reprennent du service.
C'est ça.
Même si les deux n'ont rien à voir, mais.
Enfin, la particularité du jeu de rôle, c'est que c'est jamais périmé.
Non, bien sûr, ouais, justement, le temps que le titre reste, quoi.
Oui. Mmh.
Donc, allez-y, ça coûte 6€, 6€ en PDF. Et après, c'est un très bon jeu. De toute façon, je vous en ferai une petite revue. Là, il nous reste plus qu'à écouter la cellule, alors.
On va peut-être mettre la.
T'as un radio-rôliste aussi.
Oui, tout à fait.
Et peut-être la chronique de Sion, non ?
Et bien sûr. Eh bien, écoute, transition parfaite, on va écouter la chronique de Sion qui nous parle des jeux avec les enfants.
Salut les joueuses et salut les joueurs. Aujourd'hui, chronique un peu spéciale, un genre d'hommage à Proxy Jeux. En effet, j'ai personnellement découvert ce podcast en cherchant des conseils et des noms de jeux de société pour mes très jeunes enfants. Mon grand devait avoir 3 ans à l'époque. J'étais alors tombé sur le très intéressant dossier de Proxy Jeux, Il faut faire jouer les enfants, dont je ne peux que conseiller l'écoute. Du coup, mettez en pause, écoutez-le, et revenez ici après. À de suite. Rebonjour les joueuses et rebonjour les joueurs. Du coup, parlons du jeu de rôle et des enfants, des très jeunes enfants. Ce que je vais vous présenter ici est avant tout mon expérience personnelle avec mes propres enfants et aussi ce que j'ai pu lire à gauche à droite pour me préparer et réagir à cette expérience. Mettons de suite les choses au clair. Non, vous ne ferez pas du 3-16 carnage dans les étoiles avec votre petit de 4 ans. Oubliez aussi les parties de Shadowrun sur 4 heures. Même les légendes de la garde, malgré son univers de petites souris avec des épées, ne marchera pas car il faut également laisser de côté des problématiques de devoirs, de choix moraux et l'idée d'utiliser ses traits contre son personnage un instant T pour profiter de coches plus tard. Votre gamin découvre les bases du monde. Pour jouer avec lui, il faut donc repartir aux bases de ce qu'est le jeu de rôle. Je ne parle pas là des bases historiques du jeu de rôle tel qu'on l'entend, qui viennent du wargame, mais plutôt la substantifique moelle de ce qu'est le jeu de rôle. Comme je le disais dans ma première chronique jeu de rôle du numéro 57B, jouer à un jeu de rôle, c'est construire une histoire par le biais d'un dialogue entre les joueurs. Ainsi, j'ai commencé à faire du jeu de rôle avec mon fiston en moyenne section de maternelle, sur le trajet d'école justement. Du coup, vers 4-5 ans. On avait 15-20 minutes à pied depuis la maison, et astuce de papa, outre le fait que ça passe agréablement le temps, ça incite le gamin à rester bien à côté de soi, ce qui n'est pas plus mal quand on marche le long des routes. L'idée, sur les premières fois, est de poser une situation de départ et d'inciter l'enfant à créer en lui posant des questions. Une ruse de Sioux classique de MJ. D'ailleurs, c'est le cœur de la maîtrise d'un Lady Blackbird que je vous ai déjà présenté. Pour la situation de départ, un personnage principal, un lieu ou un personnage secondaire, et un déclencheur, une première question, rien de plus, et rien de bien compliqué. Par exemple, Petit Lapin s'est perdu dans la forêt, ou Petit Lapin est triste car sa maman est malade. Suivi d'un « à ton avis, qu'est-ce que Petit Lapin va faire ?» L'une des grosses difficultés à ce moment, ne refusez rien. De manière générale dans le jeu de rôle, un conseil au maître du jeu est de ne jamais dire non au joueur, mais de lui préférer un « oui, mais ». Dans ce cadre-là, c'est encore plus flagrant. À vrai dire, oubliez même le « mais ». Accompagnez l'imagination du petit sur ses premières parties. Et relancez toujours avec une introduction d'éléments simples et une question. Genre, si le gamin dit « il faut aller voir le docteur » dans le cas où la maman de Petit Lapin est malade, le docteur habite à la ville, c'est de l'autre côté de la forêt. Comment Petit Lapin va faire pour chercher le docteur? Attendez-vous à de bonnes surprises. Avec la pratique, il peut même arriver que l'enfant réagisse en intégrant des éléments sans même que des questions ne soient posées. Dans le cas où vous avez plusieurs gamins dans l'aventure, vous en aurez peut-être qui diront non à une proposition d'un autre joueur. Il faut cadrer ce genre de choses. Le jeu de rôle étant un dialogue, il est important que tous puissent apporter leur pierre et que les autres apprennent à écouter et à réutiliser. Tant en tant que MJ qu'en tant qu'adulte, assurer ceci sera la plus grande part du rôle. L'une des étapes d'après est de ne plus évoquer un héros extérieur, mais un personnage du joueur. Tu es Petit Lapin, qu'est-ce que tu fais ? Après de nombreuses histoires le long du chemin de l'école, profitant d'une période de vacances, je suis passé avec mon grand, toujours dans les 5 ans à l'époque, à un stade supérieur, l'introduction d'un système de résolution. En effet, jusque-là, une action décrite était acceptée avec éventuellement introduction d'éléments pour la suite, mais rien de plus. Avec un système de résolution, on introduit aussi la notion d'échec possible. Le système que j'ai pu utiliser est simple. Un personnage est défini par trois compétences, fort, courageux et malin, qui correspondent au type d'épreuve qu'il rencontrera. Elles sont associées à trois niveaux de maîtrise, très bon 4D6, bon 3D6 et moyen 2D6. Le seuil de résolution étant de 10 ou plus, la somme que les dés doivent vaincre pour que l'épreuve soit réussie. Le personnage avait aussi des équipements et pouvoirs, que je demandais à l'enfant d'inventer et que je lui proposais de dessiner sur des fiches cartonnées de type Bristol. Chaque équipement et pouvoir pouvait donner plus un dé au test si son utilisation était adaptée. Parmi les équipements et pouvoirs que l'enfant pouvait inventer, je lui imposais une limite de 3 qu'il pouvait porter sur lui. Enfin, côté MJ, une mise en situation, par exemple « il faut aller voir le dragon » et un plan griffonné à la hâte. Dans mon cas, j'avais pu faire un château avec un chemin allant vers la montagne où habite le dragon, le chemin passé par une rivière et à travers une forêt. Côté aventure, on sort les grosses ficelles. Bon, des fois à ce point grosse que le gamin a de lui-même introduit certaines. Par exemple, pas de pont pour traverser la rivière. Dans la forêt, il faut savoir retrouver son chemin. J'attire votre attention sur un truc avec le jeu de rôle et avec les gamins. Le jeu de rôle tel qu'on le pratique demande un niveau d'abstraction, de représentation que les enfants n'ont pas encore forcément acquis. Avoir des supports visuels est limite essentielle. De plus, les enfants en général adorent dessiner. Il faut entrer ceci dans l'activité. Ainsi, comme je le disais, pour les équipements et pouvoirs, c'est lui qui les a dessinés et représentés. La contrainte du choix à trois équipements et pouvoirs permet d'introduire des réflexions qui peuvent sembler assez avancées. Ainsi, après avoir dû faire demi-tour pour chercher un cheval au château pour passer la rivière où il n'y avait pas de pont, mon gamin a dû décider quel équipement il allait laisser sur place. Il a étudié la carte griffonnée, regardé ce qu'il avait déjà, et a décidé que l'épée faisait doublon avec l'arc, les deux étant des armes. Encore une fois, je le redis, attendez-vous à des bonnes surprises. Dans un premier temps, ce fut moi en tant que MJ qui imposais la compétence à utiliser. Au fil des parties, sur le système que je viens d'écrire et plus tard sur le système d'Ognome, un système similaire au niveau de l'utilisation des compétences, mon gamin a même commencé à imaginer tourner ses actions pour que l'épreuve se fasse sur sa compétence la plus forte. Et voilà, désormais, j'ose espérer que vous savez ce que vous ferez durant vos prochaines vacances avec vos petits hauts. Et je suis toujours disponible pour échanger sur le sujet. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, jouez bien.
Belle conclusion quand même, hein. Moi j'avais pas vu que c'était fini. Moi elle m'en a parlé, elle m'a dit ouais, en fait, narrativiste c'est bien aussi.
Bah je sais pas, sur le site, moi je vois ça, j'ai dit tiens, bah...
Voilà, c'est la fin de cette...
Ah tiens, ils disent en plus d'articles devront rester consultables pendant un an, après quoi le site devrait...
Suspense. À quoi 2014. Donc ouais. On parle des narrativistes. Donc allez-y, ruez-vous sur narrativiste.eu parce que le nom de domaine va arriver à péremption et en fait ils l'ont pas renouvelé et donc le site va fermer.
Mais ils disent qu'ils vont aller basculer après sur un autre truc qui s'appellera 500 nuances de geek.fr.
Ah, 50 nuances de geek.fr.
Avec 500. Une erreur. Ouais. Qui amène sur une erreur 404.
Ok. Donc, on vous reparlera de narrativiste dans les prochains numéros. 404 nuances de geek. Voilà, bah, j'espère que. Bah, alors, réagissez. Toujours pareil, si vous voulez nous envoyer des chroniques sur le jeu de rôle. Il y a Siol actuellement, mais Siol, je pense qu'il y a de la place pour. Quelqu'un d'autre, par exemple des comptes rendus de partie ou des choses comme ça, n'hésitez pas, envoyez-nous vos chroniques. Et puis en attendant, la semaine prochaine, on vous parlera de jeux de société où on va un petit peu plus
parler de Franck.
Avec plaisir.
Donc en attendant la semaine prochaine, et ben je veux bien.
Qu'est-ce que c'est que ce vin? Non, mais en plus, je mets comme ça.